est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti des Amériques avec vous, Juliette Jacquemin. Bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Donald Trump, candidat, avait fait du retrait des troupes en Afghanistan une promesse de campagne. Donald Trump, président, y renonce et intensifie l'effort militaire. Il l'a dit hier, mais il prévient, pas question de penser à construire une nation, simplement de tuer des terroristes. Le travail des enfants en question en Haïti, à Noailles, près de Port-au-Prince. Ils sont très nombreux à rejoindre les ateliers de fer forgé bien avant l'âge légal de 14 ans. Ils commencent parfois à travailler dès l'âge de 5 ans, on l'entendra dans le reportage d'Amélie Baron. Et puis on se quittera sur un petit air de tango. Le mondial de tango se déroule jusqu'à demain à Buenos Aires en Argentine, le berceau de cette danse. Une compétition très relevée qui attire des danseurs du monde entier. On ira à leur rencontre. C'est une volte-face qu'il a dû reconnaître. Hier, Donald Trump annonce qu'il ne retirera pas les troupes américaines d'Afghanistan. C'était pourtant l'un de ses engagements de campagne, mais le président américain a dû l'admettre. Il n'est pas opportun de se retirer. Plus encore, il ouvre la voie à un renforcement des effectifs militaires dans le pays après une guerre qui dure depuis 16 ans maintenant. Un revirement donc qu'il a annoncé sur une base militaire de Washington hier soir, tout en assurant que le gouvernement afghan devrait faire des efforts. Écoutez Donald Trump.
Les États-Unis travailleront avec le gouvernement afghan tant qu'ils verront de la détermination et des progrès. Quoi qu'il arrive, notre engagement n'est pas limité, mais nous ne signerons pas de chèque en blanc. Le gouvernement afghan doit assumer sa part de l'effort militaire, politique et économique. Les Américains attendent de vraies réformes, de vrais progrès et de vrais résultats. Notre patience n'est pas illimitée. Nous garderons les yeux grands ouverts et conformément au serment que j'ai fait le 20 janvier, je resterai ferme et je protégerai les vies et les intérêts américains.
Le président américain Donald Trump. Stéphanie Schuller est avec nous pour la revue de presse. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Alors que dit la presse aujourd'hui de cette nouvelle stratégie américaine en Afghanistan?
Eh bien Juliette, les avis sont pour le moins partagés aujourd'hui. Encore une fois, écrit par exemple le Washington Post, le président Trump était obligé de garder les yeux fixés sur le téléprompteur et de dire des mots qu'il ne s'était jamais imaginé prononcer un jour. Bien qu'il ait soutenu des années durant que les États-Unis devraient quitter l'Afghanistan, Trump a annoncé hier soir qu'il allait envoyer davantage de troupes dans cette guerre la plus longue du pays, tout en faisant une promesse qu'il risque d'avoir du mal à tenir. D'une manière ou d'une autre, les problèmes seront résolus. Je suis un homme qui résout les problèmes et nous allons gagner. Le président Trump a un plan pour gagner en Afghanistan, s'exclame Hillar, le Chicago Tribune, avant de poursuivre sur un ton sarcastique. Ce discours présidentiel était une représentation théâtrale et pas l'annonce d'une stratégie aux objectifs réalistes.
Bon, cela dit, il y a aussi des commentaires plus positifs.
Oui, absolument. Le tabloïd de New York Post, comme vous le savez, fervent soutien du président, salue ce qu'il appelle le réalisme de principe dont a fait preuve Donald Trump. Un réalisme nécessaire que les Américains souhaiteraient entendre et voir plus souvent en politique, estime l'éditorialiste. La stratégie de Trump est plus ou moins la même que celle de l'administration Obama, constate le Los Angeles Times, qui souligne tout de même une différence notable, à savoir la volonté de Donald Trump de mettre le Pakistan sous pression afin qu'il arrête de fournir refuge aux talibans et autres groupes terroristes. Pour le quotidien USA Today, le plus important est le message envoyé au monde. Il n'y a ni retrait, ni même de calendrier. Les États-Unis soutiendront le gouvernement afghan autant que nécessaire. Ce message est crucial, estime USA Today, non seulement à l'adresse des talibans, mais aussi à des pays comme l'Iran ou la Russie, par exemple, qui pensaient avoir déjà eu flair d'un potentiel vide de pouvoir, alors que l'Amérique semblait vaciller. Et USA Today de conclure, désormais, tous sont avertis, les États-Unis ne sont pas prêts à céder du terrain.
En Colombie, l'avenir de Luisa Ortega fait l'objet de nombreuses spéculations dans la presse. La procureure générale vénézuélienne s'était enfuie vendredi en Colombie, on s'en souvient, après avoir été destituée par l'Assemblée constituante.
Oui, hier, le président colombien Juan Manuel Santos est sorti de son silence, qui a duré 3 jours, et a annoncé sur Twitter que Luisa Ortega se trouvait sous la protection du gouvernement colombien et qu'on allait lui accorder l'asile si elle en faisait la demande. En dehors du tweet présidentiel, nous ne savons rien de la procureure. Nous ne savons pas où elle se trouve, ni ce qu'elle compte faire, remarque El Tiempo. Le quotidien El El Colombiano estime qu'il est peu probable que Luisa Ortega demande l'asile politique en Colombie, car, selon la loi colombienne, elle n'aurait alors plus le droit de s'engager politiquement ni de s'exprimer publiquement sur les affaires de son pays natal. Or, souligne le journal, beaucoup voudraient l'entendre, notamment sur les possibles implications du gouvernement Maduro dans le scandale de corruption autour de l'entreprise brésilienne Odebrecht, implication dont l'ex-procureur affirme détenir des preuves détaillées. Le Sénat de Bogota l'a d'ailleurs invité ce mardi après-midi pour s'exprimer devant les élus colombiens, mais Juliette, on ne sait pas encore si Luisa Ortega s'y rendra.
Quoi qu'il en soit, au Venezuela, les réactions du gouvernement ne se sont pas fait attendre. C'est ce que nous explique notre correspondante à Caracas, Andreina Flores.
Cette décision a été perçue à Caracas comme un acte de conspiration contre la démocratie vénézuélienne. Le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré via les réseaux sociaux que le gouvernement de Juan Manuel Santos était une honte historique pour la région puisqu'il protège la corruption et la délinquance. Tarek William Saab, le procureur qui remplace Luisa Ortega, a lui qualifié la décision de répugnante. Il évoque une tradition colombienne de coopération avec des Vénézuéliens liés au terrorisme et au trafic de drogue. Le destin de Luisa Ortega reste désormais incertain. Elle n'a pas encore accepté de manière officielle l'offre d'asile de la Colombie et n'a rien dit non plus d'un possible déplacement vers un autre pays comme par exemple les États-Unis. Andreina Flores, Caracas, RFI.
Et puis Stéphanie Schuller, on parlait hier de l'éclipse solaire, alors pas de bouleversement cosmique, hein, elle s'est bien déroulée comme prévu aux États-Unis, on en parlait, mais aussi notamment en Haïti.
Oui, occasion pour le National de revenir sur les événements de 1998, quand une gestion tout à fait curieuse de l'information concernant l'éclipse avait créé une panique qui avait fait d'Haïti la risée de la Caraïbe, regrette le journal qui raconte. La capitale avait été désertée, les gens s'étaient barricadés chez eux, des plus beaux quartiers sur la montagne jusqu'aux bidonvilles au bord de la mer, c'était comme lors des grandes peurs du Moyen-Âge. On avait même vu, cerise sur le gâteau, des policiers casque sur la tête le plus sérieusement du monde pour se protéger des rayons diaboliques, sauvant la vie des citoyens en les pressant de se réfugier chez eux.
Alors hier, la gestion de l'éclipse s'est quand même mieux déroulée.
Oui, mais regrette le quotidien haïtien, toute la mobilisation gouvernementale autour de ce phénomène, motivée par le désir bien sûr de réduire au maximum les troubles que peut causer une exposition des yeux aux rayons provoqués par l'éclipse, ne revoit finalement qu'au niveau pitoyable de notre système éducatif qui, non seulement n'instruit pas, mais surtout ne s'engage pas à retracer la frontière entre l'imaginaire et le réel. Car chez nous, l'imaginaire colonise le réel, constate le National avant de conclure. Donc, ce qu'il faut, c'est l'éducation, éducation et encore l'éducation.
C'est entendu. Merci Stéphanie Schuller d'avoir été avec nous pour la revue de presse. L'éducation en Haïti, oui, mais le problème du travail des enfants lui reste encore très prégnant sur l'île. Nous vous emmenons ainsi aujourd'hui dans la capitale du fer forgé, le village de Noailles, en périphérie de Port-au-Prince. Là, les ateliers sont nombreux. Les artisans réalisent des pièces à destination des marchés de la Caraïbe tout entière. Une tradition de plus d'un demi-siècle, mais qui est aussi l'un des symboles du travail des enfants. Nombre d'entre eux, en effet, commencent à y travailler bien avant 14 ans, l'âge légal. Reportage Amélie Baron.
À Noailles, le bruit des coups de marteau sur le fer est incessant. Au fil des années, le village s'est développé et compte maintenant plus de 80 ateliers. Un développement qui attire les dignitaires de passage en Haïti, comme en témoigne fièrement Walner Joseph.
Nous avons beaucoup de gens qui sont venus découvrir ce qu'on fait ici, la Fondation américaine Clinton. Des gens de haut niveau, comme des membres du gouvernement, des ambassadeurs. On reçoit beaucoup de monde.
Walner achève de peindre des pièces à destination de Curaçao. Il regrette évidemment de ne pas pouvoir écrire Haïti sur toutes ses créations. Dans l'atelier d'à côté, Bastien Jean-Ricardo a plus de chance. Il vend ses pièces sur le marché américain sous le label Commerce Équitable.
Je travaille avec Macy's aux États-Unis. Dans un premier temps, je leur avais fait des porte-photos. Après, j'ai fait des miroirs et je leur fais aussi des bols.
Parmi les ouvriers qui travaillent avec lui, certains n'ont pas même l'âge d'aller à l'école primaire.
Des enfants apprennent le métier avec moi. Je leur donne ce qu'il y a de plus léger, de plus petit à faire. Certains vont à l'école le matin et viennent travailler l'après-midi. D'autres font l'inverse. Certains enfants vont à l'école, mais certains n'y vont pas. Certains enfants commencent à travailler à 3 ans, à 5 ans. Ça dépend du développement psychologique. C'est dangereux, c'est vrai, mais c'est ce qui fait vivre.
Mais c'est avec vous vivre.
Entre les ateliers, les jeunes sont nombreux à taper sur le fer. À 18 ans, Tyson Jean-Baptiste maîtrise déjà toutes les étapes de la découpe.
On m'a travaillé depuis à l'âge de 9 ans.
J'ai commencé à travailler à l'âge de 9 ans. Au début, je me blessais souvent, mais même maintenant, chacun peut donner un mauvais coup de marteau et se blesser. On veut apprendre le métier pour assurer notre avenir. C'est avec ça que j'aide ma famille et que je paye mon école, car je veux finir le lycée. Aussi, je partage avec les plus jeunes. Je leur montre comment travailler. À taper du marteau tous les jours, ça fatigue le corps. C'est comme ça. On est payé à la pièce, une fois qu'on a fini. Par exemple, lui, pour faire ce petit truc, c'est 15 gourdes. Il ne peut pas aller vite, car il est trop jeune.
Lui, c'est Samuel, 7 ans, qui apprend donc déjà le métier auprès des plus âgés. Les 15 gourdes, 20 centimes d'euros qu'il va gagner sont vitales pour sa famille, qui ne survit sinon qu'avec les maigres recettes que son père parvient à tirer de la vente de ses épis de maïs. Comme Samuel, Jimmy Vio est né à Noailles et il a commencé à travailler dès son plus jeune âge.
Vous savez, c'est à cause de l'argent qui nous manque. Quand vous vous levez le matin, que vous n'avez rien à manger ou à boire, et à côté, il y a les grands artistes. Ils reçoivent des commandes, alors ils vous donnent un peu de travail pour manger et boire, alors que vos parents ne se sont même pas encore souciés de vous. Après, on peut acheter un t-shirt ou un pantalon jusqu'à ce que l'on ait l'opportunité de devenir un chef d'atelier comme tous les grands boss.
Posséder son propre commerce, c'est l'objectif de tous les enfants qui travaillent à Noailles. En attendant que ce rêve devienne réalité, ils sont les petites mains qui contribuent à créer des souvenirs pour les touristes de la Caraïbe. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
RFI, 9h21 à Buenos Aires. Buenos Aires et l'Argentine qui semblent à jamais liés à une danse, le tango. C'est là qu'il est né, c'est là aussi que la plus grande compétition de tango a lieu en ce moment même. Elle se termine demain. Chaque année depuis 2003, des passionnés de tango arrivent du monde entier pour essayer de décrocher le prix de meilleur danseur dans différentes catégories. Ce soir par exemple, c'est le tango de salon qui sera mis à l'honneur. Un championnat de haut niveau dans les coulisses duquel s'est glissée notre correspondante Aude Villiers-Moriamé.
Un brouhaha nerveux s'échappe d'un long couloir blanc. Nous sommes à la Usina del Arte, grand centre culturel de la Boca, quartier populaire du sud de Buenos Aires. C'est dans ces rues, près du vieux port, qu'est né le tango au début du XXe siècle. 100 ans après, les habitants de la Boca voient aujourd'hui débarquer des tangueros russes, japonais, italiens et même américains.
We are waiting for practicing, you know, just warming up, try the floor.
Cathy Shaw et son mari Chris vivent à Houston, dans le sud des États-Unis. C'est la première fois que ces amateurs participent au championnat mondial de tango.
On a commencé le tango ensemble, oui. Comment on a démarré ? Eh bien, il y a 10 ans, on faisait une croisière de 2 semaines en Amérique du Sud. Et c'est là que tout a commencé. On adore la musique. Heureusement, à Houston, au Texas, il y a un petit groupe de professeurs, donc on a pu continuer.
Vous êtes devenus des passionnés ?
Oh oui, très très passionnés.
Ajustant la cravate de son mari, assortie au rouge de sa robe, Cathy tente de contrôler son stress, car autour d'elle se pressent des dizaines de danseurs professionnels qui s'étirent et virevoltent à travers cet étroit couloir. Parmi les plus impressionnants, Daniel Arroyo et Juan Pablo Ramirez. Ce couple argentino-vénézuélien de même sexe n'en est pas à son coup d'essai.
Non, c'est la quatrième fois qu'on participe. Ou la troisième ?
Non, la quatrième. La première fois, on n'a rien eu. La deuxième, on était en demi-finale. La troisième, en finale. Et cette fois, on verra bien.
On est surtout là pour se faire plaisir.
Juan Pablo et Daniel passent bientôt devant les membres du jury. Ils sauront ensuite s'ils sont retenus pour les demi-finales dans la catégorie tango de salon, la plus authentique. La sélection y est particulièrement rude, comme l'explique Elina Roldan, responsable du jury.
Tous les jurés ont au moins 25 à 30 ans d'expérience dans le tango. Ils regardent d'abord les détails, la précision des pas par exemple, mais surtout si le couple est harmonieux. On le voit tout de suite ça, s'ils sont bien ensemble et s'ils suivent bien la musique.
L'harmonie du couple, un élément capital selon Wesley Tarquino. Ce danseur belge, installé à Buenos Aires depuis quelques années, a trouvé en Fabiana Rusto une partenaire idéale.
C'est impressionnant. On a besoin de deux individus qui se rencontrent et qui partagent au milieu. Et c'est une expérience extraordinaire d'être là sans compromis.
Wesley s'interrompt. C'est son tour d'entrer en scène avec Fabiana. Durant ces phases de sélection, les danseurs défilent par groupe de 20 devant le jury. Au total, 417 couples de 48 pays se sont inscrits dans la catégorie tango de salon. Le travail des jurés est titanesque. Sur scène, la connexion entre Wesley et Fabiana est effectivement impressionnante. Les deux danseurs évoluent très naturellement sur la piste. Mais à côté d'eux, Juan Pablo et Daniel leur font vite de l'ombre et conquièrent le public avec leurs incroyables jeux de jambes. Les deux danseurs se sont assurés une place en demi-finale, mais ils ont ensuite manqué de peu la sélection pour la dernière étape de la compétition. Alors qui sera sacré champion du monde de tango ce soir ? Cette année, les spécialistes parient sur un couple russe, puisque pour la première fois, 16 danseurs de Moscou et de Saint-Pétersbourg se sont qualifiés en finale. Hautevilliers-Moriamé, Buenos Aires, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Juliette.
Benoît, retard à l'allumage pour le tout nouveau centre d'imagerie médicale de la Guadeloupe.
Centre d'imagerie moléculaire, pour être tout à fait précis, plus connu sous le nom de Cyclotron. Il aurait dû entrer en service aux alentours du 15 octobre prochain, mais la livraison du TEPSCAN, comprenez la caméra scanner, a pris un peu de retard. Explication Colette Borda.
Lors d'une présentation officielle du Cyclotron en mai dernier, la scène patrimoniale était des plus optimistes quant à l'ouverture du centre. C'est la date du 15 octobre qui avait été arrêtée pour une mise en service, sauf qu'il faudra encore patienter. Ce ne sera pas avant décembre. Si tout est globalement prêt de ce côté, nous a-t-on indiqué, il semblerait que ce contretemps soit dû à un retard dans la commande du TEPSCAN, le fameux système d'imagerie médicale. Le CHU ne s'y serait pas pris dans les temps, sa situation financière et le changement de direction n'ayant par ailleurs guère arrangé les choses. Commande maintenant effective. Financée par l'ARS, ce matériel coûtera près de 3 millions d'euros. Associé au cyclotron, il devrait permettre de prendre en charge quelques 10 malades par jour. 1700 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année en Guadeloupe.
Elle s'appelle Joëlle Prévomadère, c'est la vice-présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Guyane. Elle a récemment intégré le bureau confédéral national donc de l'organisation. C'est, paraît-il, une première pour une personnalité ultramarine. Joëlle Prévomadère est au micro de Bertrand Villeneuve.
Plus vous êtes près de ceux qui peuvent intervenir, mieux vous vous faites entendre. En fait, depuis que la CGPME à l'époque m'avait désigné pour être au Conseil économique, social et environnemental, je m'étais bien rendu compte que ils souhaitaient avoir quelqu'un de nos territoires au niveau national qui puisse exprimer les problématiques de nos territoires.
On termine avec un beau spectacle, malgré quelques nuages malvenus, spectacle de l'éclipse du soleil hier après-midi, éclipse partielle en Martinique, mais les visiteurs étaient tout de même nombreux au Centre de découverte des sciences et de la Terre à Saint-Pierre. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Nathalie Josse.
Alors, je vois un croissant jaune. Et puis c'est entouré, c'est noir autour, et puis voilà. C'est super, hein, parce que j'ai vu la dégradation, c'est-à-dire j'ai vu quand le soleil était rond, jaune, et après j'ai vu au fur et à mesure quand la lune est arrivée, etc.
J'ai vu comme une lune un peu, orange. J'en avais déjà entendu, mais j'avais jamais vu. Donc j'ai vu, c'est très joli, je trouve.
Mais c'est magnifique. Franchement, je pensais pas que c'était comme ça. Franchement, j'aime bien.
Prochaine éclipse partielle du soleil en Martinique en 2023. Rendez-vous est pris. Bon après-midi Juliette, à demain.
Bon après-midi et à demain Benoît Ferrand. Merci à Florian Dubois aux manettes de cette émission aujourd'hui. Et en cette journée de mondiale du tango, on se quitte justement avec Minimal Tango. C'est un morceau de Fleur Noire.